avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je viens avec courtoisie, mais...
Et avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jean, au secours.
Voilà, bah, c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour chers auditeurs, heureux de vous retrouver en compagnie de toute l'équipe de Restons Courtois du vendredi soir, 17h30, 19h30, émission réalisée en partenariat avec Boulevard Voltaire, comme d'habitude, le grand quotidien de la France droite. C'est parti pour 2 heures, avec ce soir, 4 voix subtiles et à droite pour observer l'envers de l'actualité de notre cher et vieux pays. Damien Chalamel est là, avocat spécialiste de la propriété intellectuelle, vous le connaissez, bonsoir Damien.
Bonsoir Marc. Chers auditeurs.
Gérard Gachet, journaliste, ancien porte-parole des ministères de l'Intérieur et de la Défense, ex-adjoint, on peut le dire maintenant.
Encore, non, jusqu'au lundi 6 avril.
Ah, alors adjoint, toujours adjoint au maire du 16e arrondissement de Paris. Voilà, on va l'avoir bien plus souvent désormais, ça c'est la bonne nouvelle. Et Philippe Charlez, ingénieur des mines de l'École Polytechnique de Mons et docteur en physique de l'Institut de physique du globe de Paris. Bonsoir. Philippe.
Bonsoir à tous.
Et Baptiste Mousseau, bien sûr, journaliste à Boulevard Voltaire, Baptiste qui nous rejoint ce soir parce que, mais je vous dirai ça tout à l'heure, il a fait un article extra sur le vote Rassemblement National en Bretagne. Vous pouvez, chers auditeurs, nous appeler au 01 46 51 00 85 ou nous envoyer vos courriels à courtoisie@rc.fr. On les lira à l'antenne dans toute la mesure du possible. Vous êtes les bienvenus. On vous attend au téléphone. Au programme ce soir, un édito sur Greenpeace qui licencie, figurez-vous. L'écologie radicale ne fait plus recette, c'est comme ça. En première partie, nous parlerons des municipales à nouveau. Il y a beaucoup de choses à analyser. On verra ce que signifie le réveil patriote d'une région, la Bretagne, je vous en parlais à l'instant. On aura notamment Gilles Penel, qui est député européen, président des élus Rassemblement National au Conseil Régional de Bretagne et membre du bureau exécutif et du bureau national du Rassemblement National. Nous verrons ça avec lui et avec beaucoup d'autres, notamment avec 2 nouveaux maires Rassemblement National, alors pas en Bretagne, mais qui nous raconteront l'accueil assez étrange qu'ils ont reçu de la part de la gauche. Et puis en deuxième partie, nous parlerons des 4 vérités de Vincent Bolloré, qui était l'invité de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. C'était quand même encore un grand moment assez extraordinaire. On a quelques cotes dont on parlera ensemble, quelques citations. Nous aurons évidemment notre clin d'œil culture, ils ont tous préparé des tas de choses, puisque Damien Chalamel et Philippe Charlet viennent de me dire qu'ils n'avaient rien pour cette semaine, mais nous, avec Gérard Gachet, on a bossé. Hein. Auparavant, notre traditionnel tour d'actualité, qu'est-ce que vous avez retenu de l'actualité de la semaine les uns et les autres, hein, Philippe Charlet, par exemple.
Alors, moi, j'ai retenu un point intéressant, c'est que une demi-heure avant que Donald Trump déclare son faux pseudo-accord, et une demi-heure après, on a enregistré un nombre d'échanges boursiers de la famille Trump et de ses proches qui est assez marquant, avec un delta avant et post de 500 millions de dollars. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle clairement un délit d'initié. Mais personne.
On est sûr de ça, Philippe? Je ne suis pas penché dessus.
Les échanges sont extrêmement clairs. Alors, ce n'est pas lui directement, mais on va dire qu'il y a toute une myriade de gens qui manifestement étaient au courant, ont profité de l'information qui n'en était même pas une.
Mais on sait
que ça a créé un delta sur le baril de 10 dollars. Ouais. Et donc, vous imaginez sur des gros volumes ce que ça peut faire comme gain ou comme perte.
On va suivre ça, on verra ce que ça donne.
On verra
c'est
ce que ça donne.
Malin. Si c'est le cas, en tout cas, ça ne me paraît pas très
mal. Mais je crois que Trump ne recule devant rien, donc ça ne le gêne absolument pas, et ça n'a l'air d'ailleurs de gêner personne.
Mais Philippe, vous savez comment on appelait historiquement le délit d'initié?
Non.
Le délit de dîner en ville.
Parce que.
Bah, parce que c'est dans les dîners en ville qu'on apprend.
Ah, des dîners en ville.
Qu'on apprend
la bonne ce genre d'infos.
Bah, non, oui. Mais c'est vieux comme le monde. Avant que tout ça constitue un délit pénal.
C'est mais là, réalité... apparemment, c'est un dîner en famille.
Apparemment, oui, voilà.
C'est peut-être un dîner de famille.
Ouais. Enfin, famille et proche, on va et dire.
Ouais. Bon, en tout cas, c'est vrai que ça ne fait pas très propre. Damien Chalamel, puisque vous avez la parole.
Oui, alors, bah, écoutez, ouais. Moi, toujours dans la suite de Philippe, à l'ouest du nouveau, merci président Donald Trump. Alors, non pas pour son délit d'initié, mais pour un décret qui, semble-t-il, présidentiel, a été pris aujourd'hui. Et qui interdit à toutes les administrations fédérales, ce qui est assez conséquent, de travailler avec toute entreprise, tout fournisseur de produits ou de services qui pratiquerait une politique de discrimination positive.
Ah, alors, incroyable.
Donc
ah
ce bon sera interdit. Alors, messieurs les BNP et autres sociétés générales et autres grands groupes français qui
Qui se vautrent dans la discrimination
qui se vautrent dans le wokisme le plus abject. Attention, Hartung. Donc je trouve ça formidable. Alors maintenant vous savez c'est les politiques de DEI.
Incroyable.
Alors comme on est à Radio Courtoisie, je le prononce à la française, diversité, équité, inclusion. Donc je me suis dit que voilà, la croisade contre le wokisme commence à Washington et le dernier parodie woke, eh bien il est à Bruxelles.
Comme
voilà.
Quoi avec Trump ouais. On peut vite passer du noir au rose.
Oui, mais il y a des choses extraordinaires chez ce président, voilà. Bah, écoutez, j'attends la libération voilà. Du paradis woke, voilà, ou de l'enfer woke, pardon.
On a eu Dr. Jekyll et
Mr. Hyde, exactement.
Ce soir, voilà. J'ai regâché.
Moi, il y a une chose qui m'a marqué pas très positivement cette semaine, c'est quand même l'incroyable hommage du président Macron à Lionel Jospin, qui est une cérémonie officielle digne et recueillie pour un ancien Premier ministre qui a quitté cette terre. Très bien.
Personne
mais
ne conteste,
de là à rendre un hommage national à celui qui fut probablement un des pires, sinon le pire Premier ministre de la Ve République, c'est quand même effrayant. Parce que son bilan, c'est quoi? Alors, on a beaucoup loué son honnêteté.
Vous oubliez Edith Cresson.
Oui, oui, oui. On a beaucoup loué son honnêteté. Alors, je veux bien, si on parle d'intégrité financière, parce que là, sur ce plan-là, apparemment, cet homme-là n'était pas suspect de quoi que ce soit. Mais en revanche... Parler de l'honnêteté d'un militant trotskiste qui fait de l'entrisme sciemment au sein du Parti Socialiste, je pense que ce n'est pas une démarche extraordinairement honnête. Surtout quand il dit après, ce n'était pas moi, c'était mon frère, jusqu'à ce qu'il soit quand même publiquement contraint de le reconnaître. Et puis dans son bilan, il y a quoi? Il y a quand même la loi sur les 35 heures qui est, et leur extension à la fonction publique, en plus,
les
notamment la fonction
jeunes,
hospitalière.
Les emplois
et
jeunes.
Et qui sont quand même un appauvrissement incroyable de la France, avec bien sûr les emplois jeunes. Il y a la ruine du système de santé, justement, à la fois par les 35 heures, l'aide médicale d'État, qui a quand même été instituée également à cette époque.
La fermeture de Super Phoenix.
Et la CMU, qui a concouru à la ruine du système de santé français, qui était à un moment un des meilleurs du monde. La loi SRU, qui impose un minimum de logements sociaux dans les communes à partir d'un certain seuil de population, qui était 20% au départ, qui a été porté à 25% en 2013, et que les socialistes, par exemple à Paris, veulent porter maintenant à 40%, ce qui est quand même absolument aberrant. Et enfin, on l'oublie trop facilement, l'explosion de la délinquance sous le gouvernement Jospin entre 1997 et 2002, le nombre total de crimes et délits constatés a augmenté de 18% pendant cette époque. Et il va falloir après... Le passage de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, et puis après même ce début de sa présidence de la République, on va revenir à l'état antérieur en nombre de crimes et délits, on n'y reviendra qu'en 2010. Donc vous voyez que c'était quand même une explosion incroyable. Donc avec ce bilan-là, je ne suis pas sûr qu'on mérite un hommage national.
Absolument. Eh bien, écoutez, vous en avez fait une démonstration assez efficace,
oui,
Damien
donc,
et Philippe Charlaise.
Un mot au palmarès, j'ajouterai le PAX.
Oui, il y a beaucoup de choses.
Et j'ai là aussi que ce qui me frappe en vous écoutant, c'est que c'est aussi la mauvaise conscience de la droite, parce que toutes ces réformes funestes, eh ben, elles n'ont pas bougé d'un iota, voire même elles ont été empirées
elles ont
par
été
les gouvernements dits de droite
voire qui empirées.
Se sont succéder.
Oui, donc moi je rajouterais dans mon domaine la fermeture de Super Phoenix et donc la première fois où disons que le gouvernement français s'est couché devant les écologistes, hein, puisqu'il avait comme ministre de l'Environnement Dominique Voynet, dont on sait qu'elle s'est même vantée d'avoir négocié avec son collègue britannique la fermeture de Superphénix.
En trahissant la mission qui lui avait été confiée.
Donc on peut rajouter ça effectivement au palmarès. C'est un événement important parce que la France avait incontestablement, dans ce qu'on appelle la quatrième génération nucléaire, un avantage compétitif unique par rapport à tous ses compétiteurs dans le monde. Et c'est un avantage compétitif qui est aujourd'hui totalement disparu puisqu'on n'a plus de projet quatrième génération et que les seuls qui ont été relancés aujourd'hui sont en Russie et en Chine.
Bon, eh ben écoutez, on vous avait bien tempéré, en tout cas, chacun l'hommage national. Je voudrais quand même, pour rattraper un peu son cas, rappeler qu'on lui doit quand même l'émergence d'un certain Jean-Marie Le Pen au deuxième tour d'une présidentielle.
Mais il faut peut-être aussi, rappeler, parce qu'il n'avait pas eu Mélenchon comme ministre.
Bien sûr, si, mais Mélenchon était son ministre.
Je ne sais plus de quoi.
C'était
pas de l'industrie ?
Non. Il était ministre de l'enseignement professionnel, secrétaire d'État.
Donc, comme quoi, il l'avait bien choisi.
Ta camarade Trotsky, ils appartenaient à la même obédience, l'OCI.
Ouais, c'est ça.
Et Lionel Jospin, oui, c'était le fameux camarade Michel.
C'est des enfants de notre ami Léon Trotsky.
Léon Trotsky, et de Pierre Lambert.
Oui, il est lambertiste.
Il est lambertiste.
Pas les plus modérés, hein.
Non, avec Edwy Plenel, hein, c'est ça
Edwy Plenel, c'est la LCR.
C'est l'autre branche.
C'est
vrai.
C'est l'autre branche. Ils sont des trotskistes aussi.
C'est l'autre branche.
C'est Krivine, alors que l'ECI, c'est occulte. Beaucoup plus occulte.
Oui, la LCR, c'est Poutou aujourd'hui.
Oui, mais c'était à l'époque, c'était Krivine, pendant des années.
Oui, Alain Krivine, pendant des années. Oui, absolument.
Il s'est présenté à la présidentielle de 1974, si je me souviens bien.
Alors, j'ai ma petite actualité aussi, hein, je ne sais pas si vous avez vu, qui est plutôt positive quand même. Hein, le Parlement européen a validé ce jeudi-là un net durcissement de la politique migratoire du continent. Il a approuvé le concept des hubs de retour. Hein, ce sont des centres pour envoyer des migrants en dehors de l'Union européenne. Je sens que Damien Chalamet...
C'était ma nouvelle de la semaine dernière. Je vous avais fait part d'un projet de règlement qui a été adopté, mais c'était celui-là.
C'était un signe aussi de l'Union des droites aussi, puisque l'ensemble des droites au Parlement européen a voté...
Le PPE avec...
J'allais y venir, c'est que ces mesures, mais il a toujours raison avant moi, notre ami. Non, mais ces mesures ont été réclamées par une majorité d'États membres, ainsi que par des eurodéputés de droite et d'extrême droite. Et de fait, il y a donc toute une union de la droite. Ça, c'est vraiment un cap, comme vous le dites, un gâchis tout à fait intéressant, important et nouveau dans la politique européenne. Hein. Ils ont salué tous ces députés de droite et plus à droite que la droite molle, on va dire, donc le PPE, le CR, etc., par un tonnerre d'applaudissements, cette mesure qui était attendue, il faut le dire, par les peuples européens depuis très longtemps.
Je crois même que Renew, les macronistes ont voté. Je crois qu'il y a la gauche qui n'a pas voté.
Ah, peut-être. Oui, absolument.
J'ai vu dans dans l'hémicycle. Est-ce qu'on a une idée de la localité, de la localisation de ces hubs ou pas ?
Il y a des hypothèses. J'ai vu qu'il y avait des hypothèses.
Alors, quelles sont-elles ?
Je n'ai pas été assez profondément pour voir toutes les hypothèses.
Albanie, non ?
Oui, il y a l'Albanie. Ouais.
Ça reste en Europe, c'est pas le Kenya ou...
Ça pourrait être l'Ukraine ou la Biélorussie.
Ça n'est pas Saint-Pierre-et-Miquelon non
plus. Ça a l'air encore en chantier.
Qui est quand même, sur le même sujet, qui va malheureusement dans le sens contraire, c'est quand même d'apprendre que l'ancien directeur de Frontex, Fabrice Leggeri, va être poursuivi en justice... à l'instigation de la Ligue des droits de l'homme pour son action résolue contre l'immigration clandestine quand il était le patron de Frontex. Ça, c'est absolument lamentable.
C'est absolument lamentable. J'ai d'ailleurs écrit un grand article sur le site de Boulevard Voltaire sur la question, là.
Je l'ai lu, c'est ce qui m'a donné l'occasion d'en parler, chef.
Ah, ben voilà, il est parfait, décidément, ce genre gâché. Vous reviendrez quand vous voulez.
Et non, non, mais c'est vrai, c'est absolument lamentable. C'est, il est poursuivi par deux associations qui sont Utopia 56, qui sont des immigrationnistes absolument débridés, et la Ligue des droits de l'homme, qui campe à l'ultra-gauche depuis maintenant quand même pas mal d'années. On les a vus notamment...
Alors, depuis sa création,
oui,
depuis l'affaire Dreyfus.
Ah, alors, je sais
c'est,
pas.
Ça s'est nettement aggravé.
Complètement. Enfin, là, c'est ça, est aggravé. C'était pas du aggravé. Tout comme ça dans les années 80, 2000. Là, ils sont vraiment LFistes, quoi. On a le sentiment qu'ils n'en sont pas très loin, en tout cas. En tout cas, aujourd'hui, il y a 20% des décisions d'expulsion qui sont prises au sein de l'Union européenne et qui aboutissent réellement, hein, donc seulement en Europe, quand on dit qu'on expulse un immigré illégal, eh bien, il y en a deux, il y en a 8 sur 10 qui restent chez nous et 2 seulement qui partent. Évidemment, cette statistique est absolument inacceptable et on espère que ça améliorera un peu tout ça. Voilà. Pour la bonne nouvelle du jour. Justement, je voulais vous parler de Greenpeace qui licencie parce que l'écologie radicale ne fait plus recette.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Ben oui, ça finit par ressembler à un dégonflement brutal, tous azimuts, de la baudruche verte. Quelques jours après l'échec magistral des Verts, donc aux élections municipales, on a tous suivi ça, l'Empire Greenpeace, qui a fait régner la terreur pendant des années sur ses opposants, accuse un gros coup de mou. Cet emblème du camp du bien annonce un sévère plan de licenciement, ça vous aura pas échappé, notamment à Philippe Jarlès, qui suit ça de près, pour réduire ses effectifs en France de 138 salariés à 106 salariés. C'est ce qu'explique Greenpeace France lui-même dans un communiqué qu'on peut retrouver sur son site. Un quart des salariés sont donc sacrifiés, car figurez-vous que même à l'ultra-gauche écologiste, un sou est un sou et un déficit reste un déficit, c'est comme ça. Les poches de Greenpeace France, qui s'étaient illustrées dans les violences anti-flics de Sainte-Soline, entre autres, ont un fonds, celle de ses donateurs aussi. L'association assure qu'elle se finance uniquement via des dons privés, or Greenpeace France a enregistré une croissance des dons plus faible ces dernières années, je cite l'organisation. Et ceci en dépit d'un matraquage médiatique absolument incroyable sur l'environnement, un matraquage unique dans l'histoire de la manipulation des masses. On peut décerner à cet égard d'ailleurs une mention spéciale à France Télévisions et à Radio France qui labourent le sujet jour et nuit. Je ferme la parenthèse. Pourquoi les donateurs ont-ils moins envie d'engraisser Greenpeace? Et pourquoi diable? Eh bien d'abord parce que le macronisme, allié de l'écologie politique, qui devait enrichir la France fissa-fissa avec l'aide des Verts, eh bien a mis l'économie hexagonale dans l'état qu'on lui connaît. Solliciter la générosité d'un peuple qui n'a plus le sou, ben, c'est difficile. Ensuite, les Verts apparaissent peu à peu tels qu'ils sont. Le drame de l'agriculture française leur doit beaucoup. Les difficultés de l'industrie aussi. Quant au nucléaire, patiemment saboté par le lobby écolo avant que Macron ne se réveille, il sert lui aussi de révélateur. Les factures d'électricité explosives des Français doivent beaucoup aux écologistes, et les Français le savent, je dis ça sous le contrôle de Philippe Charlez. On évitera, par charité, d'évoquer la voiture électrique, hors de prix, proposée à des Français exsangues. Finalement, le nucléaire, c'était peut-être moins horrible que ce que nous disait Greenpeace dans les années 1980 ou 90. Ce n'est pas tout, peut-être les donateurs ont-ils entendu parler des amendes colossales adressées par la justice à Greenpeace aux États-Unis. 345 millions de dollars, 293 millions d'euros d'amendes infligées en appel dans la procédure intentée par le géant pétrogazier Energy Transfer. Sur le site Écolo Reporter, qu'on ne peut pas soupçonner de déviance à l'extrême droite, le coup de bambou pourrait tout simplement entraîner la disparition, selon le site Reporter, le coup de bambou pourrait entraîner tout simplement la disparition de Greenpeace aux États-Unis. Greenpeace qui poursuit les procédures sur ce dossier. Ça aussi, ça a de quoi calmer l'enthousiasme du donateur, qu'il soit en France ou aux États-Unis. En France aussi, d'ailleurs, le tribunal correctionnel de Dunkerque n'a pas fait de détails. Au mois de septembre dernier, Greenpeace France a écopé de 30 000 euros d'amende à la suite d'une action sur la centrale nucléaire de Gravelines, dans le
le Nord. Houille, rassurez-vous, Greenpeace a tout de même obtenu l'an dernier auprès de ses 240 000 adhérents français la somme de 31 millions d'euros. Il y a sûrement encore un peu de gras à tailler dans cette somme. 31 millions, oui.
Il n'y a pas de subvention de collectivité là-dedans. Il n'y a pas de.
Apparemment pas. Ils disent que non, en tout cas. Alors, j'ai pas.
C'est assez étonnant. Oui. Moi, je dirais que ça n'est pas surprenant.
Ouais. Est-ce que c'est un renversement de tendance, hein?
Alors, il y a un renversement de tendance, certes, mais enfin, qui ne date pas d'aujourd'hui. Je vous rappelle quand même qu'aux européennes de 2024, les Verts avaient déjà fait des scores cataclysmiques, que le nombre d'électeurs entre 2019 et 2024, nombre d'électeurs français pour les Verts avait diminué par deux, et que d'une façon générale, que ce soit les Belges, les Allemands ou les Français, ça avait été absolument une catastrophe pour l'ensemble des partis écologistes, et qu'ils avaient perdu 30 ou 40% de leurs députés au Parlement européen. Ouais. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a incontestablement une déconfiture de l'écologie politique et punitive. Et d'ailleurs, c'est en juin 2025.
Dans les urnes, mais oui, malheureusement, urnes. Il reste extrêmement puissant dans toutes les instances.
Alors, il reste, c'est vrai, je vais y venir. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'opinion publique également, il y a eu une enquête récente de l'Ipsos, je crois que c'était en juin 2025, que j'avais regardé d'assez près. Et on retrouvait effectivement toutes ces tendances, c'est-à-dire que globalement, notamment... de la part des classes populaires, ils sont vus comme des empêcheurs de tourner en rond, et surtout leur côté extrémiste, punitif, et je vais dire instrumentalisateur, parce qu'en fait, ils instrumentalisent en fait des causes générales et nobles au nom d'une idéologie politique, je l'ai déjà répété.
On commence à voir un petit peu comment ils fonctionnent.
Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la fameuse convergence des luttes, convergence des luttes qu'on connaît bien. Mais vous avez tout à fait raison, l'entrisme écologique à l'intérieur des administrations reste extrêmement puissante. On sait notamment qu'au sein du ministère de l'écologie, ce sont eux qui font la loi.
Donc on a ce paradoxe incroyable d'avoir des gens qui sont désavoués par le peuple,
mais de toute façon,
et qui continuent à lui imposer des normes.
Mais de toute façon, c'est historique. Les écologistes ont toujours été, sur le plan électoral, des nains politiques, mais ils ont eu un pouvoir de nuisance absolument phénoménal. J'ai pris tout à l'heure l'exemple de Superphénix. À l'époque, ils avaient 2 ou 3%. En Belgique, ce que je connais bien sûr, ce sont eux qui ont fermé le nucléaire en Belgique. Aujourd'hui, la Belgique ne produit plus que la moitié de son électricité, est pratiquement dépendante de 50% des importations. Et tout ça pour faire plaisir aux écologistes.
Quand on parle de nains politiques pour les écologistes, il faut peut-être parfois nuancer, parce qu'on a vu au municipal, alors dans les dernières, ils ont perdu quelques grandes villes.
Ils en avaient conquis la fois précédente, dans des circonstances particulières.
Mais à Paris, par exemple, ils sont alliés et puissant au sein de la nouvelle majorité municipale parisienne. Donc,
ils ont toujours été une force d'appoint incontournable pour la gauche, mais je dis qu'individuellement, au présidentiel, tout seul, ils n'ont jamais fait 5%. C'est ça que je voulais dire. Ça représente une force politique assez faible.
Damien Chalamel, en deux mots.
Greenpeace, ils sont aussi à l'origine, comme beaucoup d'écologistes, de bobards absolument considérables. Je me souviens d'un, parce qu'il y avait quelque chose d'amusant. C'était ces fameux moutons de Patagonie qui devenaient aveugles du fait du supposé trou de la couche d'ozone qui s'est par ailleurs résorbé. Bien évidemment, ces moutons perdaient leur vue pour des raisons qui n'avaient strictement rien à voir.
Les bobards de
Greenpeace sont multiples. Et par extension, ça vaut bien évidemment pour nos écologistes qui, selon la célèbre métaphore, sont essentiellement des pastèques, hein. Vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Parce que tous les poncifs de l'extrême gauche, Madame Sardine-Ruisseau en est l'incarnation chimiquement
Sandrine,
pure.
Donnez-lui son vrai prénom.
Mais d'ailleurs, il n'y a pas une feuille de papier de différence entre les LFI et les Verts, hormis un comportement un peu moins visible.
L'antifascisme arabique, tout ça,
ce que je vais dire, c'est du marxisme. D'ailleurs, énormément d'écologistes sont arrivés à l'écologie parce qu'ils étaient orphelins du marxisme. C'est pas plus compliqué que ça. Donc il n'y a rien d'étonnant.
Absolument. Allez, on leur réserve encore quelques, hein, quelques chaînes, notre chaîne, pour les émissions suivantes à nos amis écolos. Les quatre vérités, on parlera tout à l'heure des quatre vérités de Vincent Bolloré, qui était l'invité de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. C'était encore un festival, ça a été très drôle. On aura bien sûr notre clin d'œil culture tout à l'heure. Mais d'abord, on attaque notre plat de résistance et notre grand dossier sur les municipales, ce que signifie le réveil patriote d'une région. La Bretagne.
Reste en Courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Nul n'est prophète en son pays, voilà ce que disait Jean-Marie Le Pen de sa région bretonne, tant il est vrai que la Bretagne a opposé une indifférence, voire une hostilité de granit au Front National, puis au Rassemblement National des décennies durant. Et ce n'est pas la moindre surprise lors des élections municipales du 22 mars, ces élections municipales, que le RN enregistre en Bretagne une poussée historique qui mérite d'être étudier en détail. Que s'est-il passé, comment, où, pourquoi? Alors on vous emmène aujourd'hui entre les plages et la lande bretonne pour analyser le phénomène avec des voix plus qu'autorisées. Nous aurons vers 18h celui qui connaît le mieux la situation du Rassemblement National en Bretagne et pour cause, Gilles Penel est le président des élus Rassemblement National au Conseil Régional de Bretagne. Il est aussi membre du bureau exécutif et du bureau national du Rassemblement National. Il nous dira ce qui s'est passé selon lui. Et puis nous sortiront de la Bretagne, vous entendrez en direct deux très jeunes maires RN qui ont subi les manifestations de haine inadmissibles, Yanis Godilla dans le Pas-de-Calais et Romain Lemoigne à la Flèche dans la Sarthe. Et enfin, nous prendrons un petit peu de hauteur avec le politologue et intellectuel belge Drieu Godfridi. Merci à Philippe Charlez qui l'a invité et qui nous dira avec la distance de sa Belgique natale pourquoi la gauche s'unit alors que la droite s'y refuse. C'est évidemment une des clés du scrutin. Mais d'abord, pour ouvrir le sujet, Baptiste Mousseau qui est avec nous. Vous êtes un jeune journaliste de Boulevard Voltaire. Vous avez signé un article passionnant qui a inspiré un peu ce dossier. La dynamique patriote gagne la Bretagne, c'est le titre, hein, on peut le retrouver sur le site de Boulevard Voltaire. Et donc, je voulais commencer par vous demander, Baptiste, dans quelle ville est-ce que le Rassemblement National, en Bretagne toujours, a le plus progressé? Où est-ce qu'il a atteint, par exemple, le second tour?
Alors, le Rassemblement National a atteint le second tour dans plusieurs villes bretonnes. Mmh. Donc, on a des villes comme Lorient, des villes comme Fougères, des villes comme Saint-Malo,
qui sont des villes, grosses villes, hein,
qui sont quand même des grosses villes où il faut savoir que, pour poser le contexte, la région Bretagne n'est pas une région où le Rassemblement National enregistre des percées ou a enregistré plutôt historiquement des percées. Mmh. La gauche a souvent pris le lead, en fait, là-dedans. Mais c'est vrai qu'on a des communes qui font des résultats très forts. On peut par exemple prendre le cas à Lannion également, d'une jeune candidate qui a réalisé de très bons scores.
Ouais, presque 20%. Hein.
Exactement.
Ouais. C'est ça.
Lannion, c'est le Trégor rouge historiquement.
Exactement. Ouais. Voilà,
la Bretagne a toujours été très à gauche. Depuis un certain temps.
Mais justement, donc là, Brest, Quimper, Saint-Malo, etc., c'est tout ça, on a eu des scores absolument historiques, hein, des records, hein,
des records.
De voix en Bretagne. Alors, est-ce qu'on pouvait s'y attendre à ces records, Baptiste? En fait, ça montait quand même, on sentait que les voix montaient petit à petit en Bretagne.
Petit à petit, ça a commencé à monter, alors en 2024, notamment avec les législatives, où la liste conduite par Jordan Bardella a atteint des niveaux jamais enregistrés en Bretagne. Faut savoir que la liste RN était première dans tous les départements bretons. Donc ça montre bien en fait...
En 2024, c'était quand même un sacré coup de tonnerre aussi.
Poussé, il faut savoir que Jean-Marie Le Pen, qui lui est originaire de la Trinité-sur-Mer, il n'avait jamais réussi à implanter le Rassemblement National en Bretagne. Et on l'a vu en 2024, aujourd'hui sur les élections municipales, que en fait c'est vraiment un ancrage et que la dynamique patriote est en marche en territoire breton.
Alors, vous l'avez écrit, hein, en fait, entre 2022, cette élection présidentielle, et là, les derniers votes, hein, on est passé de 19,5 à 25, 20, presque 26%, et presque 28% cette fois-ci. Quoi. C'est, donc, oui. ça grappille quand même beaucoup de voix en Bretagne.
C'est ça.
Alors, Baptiste, quel candidat vous ont le plus impressionné dans votre enquête, hein? Alors, notamment, il y a des petits jeunes qui sont incroyables.
Exactement,
hein.
Ouais. Il y a des jeunes qui sont incroyables, tout simplement. Donc, mais avant, faut savoir que je vais recontextualiser le sujet.
Ouais.
Donc, il faut savoir que aujourd'hui, les problèmes nationaux, ils arrivent en Bretagne. Et que les Bretons ne sont pas épargnés par l'insécurité, par l'immigration, par les problèmes également de pouvoir d'achat ou des problèmes dans leur quotidien. Voilà, là c'est vraiment une implantation. Le Rassemblement National, les idées patriotes se sont implantées en Bretagne. Et moi, il y en a une que j'ai particulièrement suivie, c'est Blanche Le Goffic, qui était candidate à Lannion, donc dans une terre où le Rassemblement National n'avait jamais présenté de liste. C'était également la seule liste du Rassemblement National dans le département des Côtes d'Armor et la première candidature de droite à Lannion depuis 2001.
Elle a quel âge ?
Elle a 19 ans, elle a commencé sa campagne, elle avait 18 ans.
Incroyable, hein. Et donc elle a obtenu presque 20%, quoi. Elle a frisé les 20%.
Elle a même augmenté son nombre de votes entre le premier et le second tour.
Ouais, voilà. Incroyable.
Oui, vous avez,
j'ai regâché.
Vous avez évoqué les thématiques essentielles du Front National. Elles sont en gros de deux sortes. Il y a les thématiques qu'on peut qualifier d'identitaires sur l'immigration, le souverainisme, la méfiance vis-à-vis de l'Union européenne, et puis les thématiques type pouvoir d'achat, contre les taxes, le prix de l'essence, etc. Quelle est celle de ces deux grandes thématiques qui, à votre avis, explique le mieux ou le plus cette montée du Rassemblement National en Bretagne ?
Je pense un peu des deux. Sur le volet d'abord sécuritaire, on voit que dans de nombreuses villes en Bretagne, la situation s'est dégradée. Où le vote, par exemple, pas forcément RN, mais un vote à droite, ça peut être le cas, par exemple, à Saint-Brieuc, ça peut être le cas à Lamballe, où c'est la première fois qu'il y avait une liste de droite depuis plus de 35 ans. Donc on a tout d'abord des problèmes, les problèmes justement sécuritaires, on va dire plus identitaires, mais également des problèmes de pouvoir d'achat. Voilà, il faut savoir que là, par exemple, avec la flambée des prix du carburant, la Bretagne, c'est une région très rurale. On utilise beaucoup
donc les gens, ont besoin
la
de leur
voiture. Donc les gens en ont besoin, et c'est pour ça que les gens aujourd'hui ne peuvent pas faire un plein.
La voiture ou le tracteur ou des.
Exactement.
Oui. Ouais. Alors, la question la posera dans quelques secondes à Gilles Pennel, hein, qu'on aura au téléphone très rapidement. Hein,
à votre connaissance, la mouvance bretonnante, pour ne pas dire régionaliste, voire indépendantiste, mais elle est toujours désespérément d'extrême gauche dans l'ensemble. Il n'y a pas de. Parce qu'en Corse, par exemple, on voit émerger. Un nationalisme, Nicolas Battisti, qui était le candidat d'ailleurs couleur Rassemblement National et qui a fait 8 ans de prison pour avoir posé quelques bombes. Hein. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les identitaires régionalistes les plus conséquents se réveille à droite en Corse, mais j'ai pas l'impression du tout que ce soit le cas malheureusement en Bretagne.
Alors
ça existe en Bretagne.
Les bretonnants, oui, et le mouvement régionaliste.
Il y a des mouvements régionaux comme le Parti Breton, mais qui sont des mouvements qui ont quand même soutenu des candidatures de droite. À Saint-Brieuc, par exemple, la candidature de Victor Bonneau, qui est un candidat Horizon, mais qui a eu le soutien DLR, a été également soutenue par le Parti Breton, qui est un parti régionaliste, qui est ancré en Bretagne.
Allez, on va se tourner vers un homme qui peut se frotter les mains après cette campagne bretonne, c'est Gilles Pennel. Il est avec nous. Bonsoir, Gilles Pennel.
Bonsoir.
Merci de nous consacrer un peu de temps et bravo pour cette campagne. On vient d'en parler. Vous êtes député européen, président des élus Rassemblement National au Conseil régional de Bretagne. Vous êtes membre du bureau exécutif et du bureau national du Rassemblement National. Et vous êtes la cheville ouvrière militante de ce succès du parti en Bretagne. Alors, vous n'avez toujours aucun maire aujourd'hui en Bretagne, mais vous avez des motifs de satisfaction, on vient d'en parler. Quel est peut-être le plus beau succès pour vous en Bretagne ? De quoi est-ce que vous vous réjouissez le plus après ce scrutin, Gilles Pennel ?
C'est indiscutablement d'avoir progressé partout, d'avoir déjà présenté des listes où nous n'étions pas présents la dernière fois, et d'avoir réalisé quasiment dans toutes ces villes de très bons scores qui nous ont permis partout d'être au second tour, à l'exception, on va peut-être en parler, de Rennes. Nous sommes partout au second tour. Ça a été perçu comme une grande surprise par les observateurs en Bretagne. Mais moi, je vais vous le dire franchement, ça ne m'a pas beaucoup étonné, parce que j'avais regardé attentivement les élections européennes de 2024, où Jordan Bardella avait fait un score canon en Bretagne, 26%. Il était arrivé en tête de quasiment 7 points devant la deuxième liste de Glucksmann, le socialiste. Et puis, aux élections législatives de 2024, personne ne l'avait vraiment vu, mais nous, les Bretons, nous le savions, on était présents au second tour dans toutes les circonscriptions bretonnes sans exception, alors que 2 ans avant, nous étions complètement absents. La Bretagne est en train de décoller pour le Rassemblement national. Et vous l'avez dit tout à l'heure, hein, maintenant ce n'est plus une terre de mission, comme on l'a longtemps dit, c'est une terre d'élection.
Ouais. Et donc on l'a vu. Alors, cela dit, est-ce que vous avez eu des difficultés pendant cette campagne? Alors je parle d'abord des réactions de la gauche, évidemment, mais aussi des difficultés peut-être à trouver des candidats. J'ai lu dans un journal régional, je crois, qu'il y avait une commune dont j'oublie le nom, qui dans lequel il y avait grosso modo 30% de voix pour le Rassemblement national, et il n'y avait pas eu de candidat cette fois-ci à la mairie. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui... est-ce qu'il y en a eu d'autres, quoi? Est-ce qu'il y en a eu beaucoup en Bretagne?
Vous avez eu des difficultés? L'élection municipale, c'est l'élection la plus difficile. Ouais. Et vous savez, dans de nombreuses villes bretonnes, nous devons faire face à une montée en puissance de la violence de l'extrême-gauche. Mmh. Et être candidat sur une liste du Rassemblement national, ça n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes. Moi, j'ai vu dans cette campagne municipale une violence énorme sur Rennes. Notre candidat à Rennes, Julien Masson, qui a été courageux de mener cette bataille à Rennes, n'a pas pu faire un seul marché. À chaque fois, il était agressé, expulsé par l'extrême-gauche, par les gens de LFI, par ceux qui se baptisent Antifa. On a vu la même chose à Fougères. On a vu la même chose dans certains quartiers de Brest. Il y a cette inquiétude que nous avons tous en Bretagne de la montée d'une violence d'extrême gauche. Et forcément, je vais vous dire, hein, être candidat Rassemblement national sur une liste à Rennes, eh ben, il faut être courageux.
Ouais, c'est héroïque, hein, presque.
C'est presque héroïque. Je vous le dis franchement, à Rennes, c'est héroïque. Mmh. Et malheureusement, ça n'est pas seulement à Rennes. On voit cette violence de l'extrême-gauche de groupes minoritaires, hein, qui taguent les maisons de nos candidats. Je vois Virginie Dorsan, candidate à Fougères, très implantée, a eu son domicile qui a été tagué en permanence pendant la campagne électorale. Et tout ça sans que personne ne condamne, bien évidemment. Mmh. Donc oui, héroïque.
Ouais, c'est d'une violence incroyable. On en parlera avec deux maires qui ne sont pas bretons, mais qui ont dû subir tout cela. Et vous aviez beaucoup de candidats très jeunes, Gilles Penel. On parlait tout à l'heure de Blanche Le Goffic à Lannion, elle a 19 ans. J'ai noté Valentin Le Gros à Vannes.
Valentin Le Gros à Vannes.
21 ans. Oui, oui. Hein, Théo Thomas à Lorient, 28 ans. Pourquoi est-ce que c'est un choix de votre part délibéré d'avoir des candidats très jeunes? Ou est-ce que c'était simplement parce que c'est les seuls qui ont le courage d'y aller?
Alors, c'est pas les seuls qui ont le courage d'y aller, mais indiscutablement, on l'a vu dans d'autres régions, il y a un effet Jordan Bardella, on doit le reconnaître. L'émergence de Jordan Bardella, sa jeunesse, son talent, font que tout un tas de jeunes souhaitent s'engager au sein du Rassemblement national, et nous leur donnons la possibilité de le faire. Et d'ailleurs, que des jeunes se mobilisent, ça prouve qu'ils veulent assurer leur avenir, parce qu'en fin de compte, nous avons beaucoup de raisons d'être inquiets sur l'avenir de notre pays, vous le savez, et c'est ces jeunes qui vont vivre dans ce pays, ils doivent se battre pour assurer de toujours vivre dans une France que leurs parents et leurs grands-parents ont connue. Donc il y a effectivement l'émergence d'une génération de nouveaux cadres au Rassemblement national. Et je vais vous dire, être candidat au municipal, c'est la meilleure école. Hein. C'est la meilleure école parce que c'est la plus dure. Commence par le plus dur. Ouais. Et après, bien évidemment, dans 2 ans, nous aurons les élections départementales, régionales, les législatives dans 1 an. Donc nous avons bien évidemment déjà repéré dans ces élections en Bretagne des talents qu'il faudra inciter à poursuivre le combat.
Oui, vous devez voir émerger pas mal de jeunes têtes prometteuses. Philippe Charlez avait une question pour vous.
Oui, bonjour. Philippe Charlez.
Bonjour.
Moi, ma question était la suivante. Donc, vous parliez effectivement de ces violences. On avait rarement connu ça, même dans les élections précédentes. Comment est-ce que vous entrevoyez la future présidentielle, et notamment, et en discutant d'ailleurs avec pas mal de gens autour de moi, etc., l'arrivée possible du candidat Rassemblement National à la présidence de la République, l'après fait un peu peur. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben, moi, je pense que nous avons un certain nombre d'inquiétudes pour la campagne présidentielle. Quand on voit l'attitude de certains partis politiques, qui sont y compris représentés à l'Assemblée nationale.
Oui,
nous avons des députés racailles qui soutiennent des racailles. Je vais vous prendre un exemple. À Rennes, la violence de l'extrême-gauche fait que deux fois la police arrête ceux qui agressent nos militants. Mais la députée LFI Marie Messmer de Rennes vient leur apporter son soutien au commissariat de police lorsqu'ils sont en garde à vue, fait des communiqués pour le défendre. On l'a bien vu dans le cadre de la mort de Quentin. Il y a une partie de cette gauche et de cette extrême gauche qui soutient cette violence. Alors il appartiendra à l'État d'assurer la bonne tenue de la campagne électorale, parce que on sait bien que LFI veut, c'est un parti de guerre civile, c'est un parti qui veut bordéliser la vie politique française et qui prône la violence maintenant comme moyen d'action.
Ouais, et qui est très puissante. Qui est très puissant dans certaines villes, notamment...
Et pas seulement en Bretagne, hein.
Pas seulement en Bretagne, mais par exemple, vous parliez de Rennes, vous dites que, en fait, c'est très difficile d'émerger à Rennes, hein,
et dans les grandes villes. Ouais. C'est très difficile parce que...
vous avez fait 6,67, c'est pas beaucoup.
Oui, alors on a progressé quand même de 2,5 points par rapport aux dernières municipales. Il y a quand même 5000 Rennais qui ont voté pour nous, mais la campagne électorale a été extrêmement difficile, et cette ville, elle est noyautée par la gauche et l'extrême-gauche, par les milieux associatifs, par une mairie qui tient toutes les rênes, et bien évidemment, il y a la présence de ces gens de LFI et des Antifa qui créent un climat de guerre civile, qui ont choisi d'autres moyens pour arriver au pouvoir que le bulletin de vote. Mais nous leur faisons face, nous sommes courageux et nous mènerons une campagne sur le terrain quand même, parce que nous avons quand même aujourd'hui de grands motifs de satisfaction, et nous l'avons vu dans ces dernières élections.
Gérard Gachet.
Oui, j'ai une question, vous qui êtes sur le terrain, c'est la question que j'avais posée tout à l'heure à Baptiste Mousseau. Entre les deux grandes thématiques du Rassemblement National, celles liées, disons, à l'identité, à la sécurité, à l'immigration ou au souverainisme, et puis la thématique pouvoir d'achat, lutte contre les taxes, prix de l'essence, etc., quelle est celle de ces deux grandes thématiques à laquelle, à votre avis, la population bretonne a le plus réagi ?
Écoutez, moi je pense que la Bretagne a longtemps été épargnée par les mots MAUX qui frappent les autres régions françaises. Et les Bretons voient arriver... à vitesse grand V depuis quelques années le danger de l'immigration qui remet en cause la sécurité et l'identité. On voit la violence se développer dans les villes bretonnes, et bien évidemment il y a aussi, vous avez raison de le signaler, une Bretagne qui est loin de la Bretagne des cartes postales. Toute la Bretagne intérieure est une Bretagne qui se sent oubliée, délaissée par les politiques publiques, où la problématique du pouvoir d'achat est très importante. Et là, vous savez, dans ces municipales, on n'a pas présenté de liste cataloguer RN dans les petites communes. Mais lors des élections de 2024, nous avons réalisé dans les communes rurales du centre-Bretagne, que ce soit dans le nord du Morbihan, dans le centre de l'Ille-et-Vilaine, dans une grande partie des Côtes d'Armor et du Finistère, nous avons réalisé des scores qui parfois atteignaient presque 50%. Donc il y a aussi chez les Bretons ce sentiment qu'au-delà d'un littoral touristique qui paraît très, très attractif, il y a ce sentiment d'être oublié aussi. Oublié par les politiques publiques, oublié par les politiques des différents acteurs politiques. Et moi, je vis par exemple dans cette Bretagne très rurale, et où il n'y a quasiment pas d'immigration, je le dis.
Vous êtes quel département, Gilles Penel ?
Alors moi, je suis en Ille-et-Vilaine, je vis dans le pays de Fougères, dans un petit village à côté de Fougères, et on a une vraie problématique du pouvoir d'achat. Là, je le vois actuellement avec le prix de l'essence. On voit des gens, des retraités, même des jeunes, ils mettent 20 euros dans leur voiture parce qu'on ne peut pas faire mieux. Ouais. Et ça, c'est un vrai problème. Mmh. Et c'est cette Bretagne que les politiques ont complètement oubliée, parce que la Bretagne touristique des cartes postales, c'est pas toute la Bretagne.
Ouais, et comme on a oublié toute la ruralité en France. Damien Chalamel.
Oui, bonsoir Gilles Penel. Je voulais juste savoir si vous aviez toujours une hostilité de la presse quotidienne régionale, je pense à Ouest-France en particulier. Est-ce qu'il vous réserve toujours un traitement
D'accord. Oui, un traitement très différent des autres formations politiques. Regardez, moi je suis député européen, je suis maintenant conseiller régional depuis 9 ans. Pour avoir deux lignes dans Ouest-France, parce qu'il faut bien appeler ce journal par son nom, c'est extrêmement compliqué. Un journal qui se dit démocrate chrétien, qui se dit représentant les valeurs républicaines, et qui finalement, par contre, dès que l'extrême gauche organise quelque chose, il y a un article, et nous sommes véritablement boycottés, voire désinformés. Et je mets Ouest-France en premier. Je suis, moi, vous savez, je dis la vérité, le Télégramme un petit peu moins, nous avons de meilleures relations avec le Télégramme, mais Ouest-France reste Ouest-France, finalement, qui est un journal qui apparaît un journal modéré, mais qui est en fin de compte un journal militant et sectaire.
Ouais, et ça, qu'il l'est depuis très longtemps.
Mais enfin, bien sûr, mais bien sûr.
Depuis sa création,
Et ça s'arrange pas, ils sont pas obligés de mettre un peu d'eau dans leur vin au fur et à mesure que vous montez en puissance.
Eh ben non. Alors ça dépend des correspondants locaux, parce que vous savez que Ouest-France a beaucoup de correspondants locaux.
Ouais.
Mais au niveau des pages régionales, par exemple, quand on a deux jours ou trois jours de session au conseil régional et que nous, les élus RN, nous sommes omniprésents dans les débats, on a le droit à deux mots, trois mots, et c'est toujours des mots. Monsieur Penel, dans son intervention, a choqué. Vous voyez, j'ai choqué quoi? Parce que j'ai dénoncé je ne sais quelle subvention. C'est toujours comme ça. Ouest-France reste Ouest-France. Mais vous savez, nous avons appris à nous en passer, parce que je pense que ces journaux maintenant appartiennent à un monde qui est en déclin, les gens s'informent ailleurs, et puis vous savez, il y a la force des réalités. Les réalités sont plus fortes que l'idéologie, et les réalités sont plus fortes que le boycott.
Ouais, et c'est vrai qu'en plus, leur lectorat vieillit beaucoup, hein, donc ça vous laisse quand même gambader pas mal auprès des jeunes.
Exactement, vous avez raison, mais vous savez, le cas de Ouest-France, qui est emblématique, hein, c'est un journal qui est encore lu, on le retrouve dans de nombreuses régions françaises, la presse, et puis vous savez, quand vous avez les mairies socialistes ou le conseil régional socialiste qui achète des pleines pages de publicité dans ces journaux, vous avez compris comment ils sont tenus aussi. Hein.
Ouais, bien sûr. Gilles Penel, merci infiniment, c'était passionnant.
Je vous en prie, avec grand plaisir.
Et vous en revenez quand vous voulez.
Écoutez, je réponds à toutes vos invitations.
Bon, merci. Merci pour ce focus passionnant sur ce vaste territoire plein de promesses de la Bretagne. Merci Gilles Penel.
Merci à vous tous et bonne soirée à vos auditeurs.
Allez, on va s'éloigner un petit peu de la Bretagne. On va partir pour La Flèche, où le nouveau maire Romain Lemoigne, il a 25 ans. Il est le premier maire de la Sarthe et des Pays de Loire, si je ne fais pas d'erreur. On va être avec lui là tout de suite.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Baptiste Mousseau, journaliste à Boulevard Voltaire, Philippe Charlez, Gérard Gachet et Damien Chalamel. Donc Romain Lemoigne, vous avez 25 ans, vous êtes le premier maire RN de la Sarthe depuis quelques jours et premier maire RN des Pays de Loire. Bonsoir Romain Lemoigne.
Bonsoir, merci pour votre invitation.
Vous êtes le bienvenu, vraiment. Vous avez donc gagné une ville de 15 000 habitants, hein, que vous avez acquise avec 46,75% des voix, hein, c'est bien ça, mais avec un très faible écart en réalité, hein, 133 voix d'écart. J'ai découvert ça en regardant la situation, hein, c'est bien ça?
Tout à fait.
Voilà.
Ça.
Vous l'avez gagné sur une socialiste après 37 ans de gestion à gauche dans cette commune. Avec, j'ai remarqué ça aussi, une participation très forte, 73% de participation, c'est bien au-dessus du score national. Qu'est-ce qui explique cette participation très importante? Est-ce que la campagne a été très tendue?
En réalité, la campagne a été effectivement extrêmement intense, puisque nous l'avons commencé il y a plusieurs mois. mais je pense surtout que le dénominateur, ou plutôt l'élément déclencheur, ça a été le souhait d'alternance formulé par une grande majorité des Fléchois. Forcément, une fois qu'on a connu plus de 35 ans de socialisme, on a envie d'un renouveau. Cela s'entend et se comprend, et de très nombreux Fléchois l'ont manifesté. Alors effectivement, il y a eu une très très grosse participation, puisque une bonne partie des électeurs socialistes sont aussi déplacés, et évidemment on respectera et on écoutera leur voix. Toutefois, voilà, la majorité l'a emporté, et c'est de bonne augure pour la Flèche.
Oui, absolument. Et alors, vous n'avez pas eu, vous, de violence, donc on a pu regretter ailleurs. On aura tout à l'heure un maire qui a été victime de violence, mais vous, je crois pas. Hein.
Alors, on a eu quand même un petit peu, puisque bon, d'abord, l'entre-deux-tours a été extrêmement virulent de la part de la gauche extrême en face, puisque LFI et consorts se sont déplacés à la Flèche pour perturber un peu la campagne.
Ah oui.
Et notre local de campagne a été caillassé.
Ah oui, quand même.
Dans la nuit du dimanche, donc à la veille du scrutin, en fait, où on a eu quand même quelques violences. Alors, heureusement, tout s'est apaisé depuis, et évidemment, le message que je porte, moi, c'est tout de suite d'apaiser la ville et que l'unité soit, redevienne le point central. Mais c'est sûr qu'on a eu une campagne de retour qui était extrêmement virulente.
Ouais, comme ailleurs. Je donne la parole à Damien Chalamel dans une seconde, mais d'abord, vous avez eu un boycott emblématique qui a fait la notoriété de votre... c'est ce dont vous vouliez parler, Damien. Bah, allez-y, Damien.
Oui, ouais. Alors vous avez été boycotté apparemment par ce monument de la littérature française, sinon mondiale, Mézarine Pinjot. donc la question que je posais, c'est mais comment diable allez-vous faire pour combler ce vide abyssal?
Est-ce que vous avez réussi à vous en remettre?
J'en ai fait des cauchemars pendant 3 jours.
Hein. Non, sérieusement, c'est... On n'est pas surpris.
Bon, en réalité, c'est vraiment, comment dirais-je, c'est un acte politique, évidemment, mais qui est en plus totalement infondé et insensé, puisque ça veut dire qu'elle prive ses lecteurs potentiels une rencontre, puisque les bibliothécaires, eux, seront bien ouverts dimanche, mais elle ne sera pas là.
on la félicite.
C'est vrai, ces lecteurs potentiels qui ne sont pas forcément vos électeurs, quoi. Hein,
c'est non, ça. C'est sûr, mais moi, je suis ouvert à, je suis ouvert au débat intellectuel, et puis bien sûr que chacun a le droit de citer et de s'exprimer, et surtout par la lecture, en plus. Ça, c'est pas un problème, mais bon, moi, je regrette surtout pour le débat, et puis pour les Fléchois qui voulaient aller la voir, s'il y en avait.
Bien sûr, vous l'auriez bien reçu.
Ah bah oui, moi je ne refuse personne.
Bah oui,
vous êtes républicain.
Voilà. Philippe Charlez avait une question pour vous.
Ouais. Donc vous avez été élu, on a dit, avec 133 voix d'avance, c'est ça? Donc vous étiez à... donc oui, c'est pas beaucoup. Donc est-ce que vous avez certaines craintes quant à la tenue des futurs conseils municipaux? Et est-ce que finalement, donc vous dites, ça c'est quand même relativement apaisé? Est-ce que l'LFI est dans l'opposition et est représentée, ou est-ce qu'il y avait une union de la gauche, ou est-ce qu'au contraire les socialistes étaient séparés de LFI?
Alors en fait, à vrai dire, il n'y avait qu'une seule liste de gauche, donc une liste en fait d'union de la gauche au sens large. Même si LFI n'était pas nominativement cité, on sait très bien qu'il y avait parmi les colistiers, Madame la maire sortante, une partie qui soit était adhérent à LFI ou alors avait des accointances avec LFI, hein. C'était assez clair, puisqu'on a eu d'ailleurs Marine Le Pen qui est venue nous soutenir avant le premier tour, et certains des colistiers de Madame la maire étaient en face en train de manifester avec une agressivité d'ailleurs assez invraisemblable pour certains. Donc en réalité, bon, union de la gauche, certes, mais LFI n'était pas très loin.
Et donc, est-ce que vous avez certaines craintes quant à la tenue des futurs conseils municipaux, qui est effectivement de... sinon de la virulence, sinon de la violence, au moins de la forte virulence?
Je n'espère pas, évidemment. Moi, je pense que le calme va revenir, et je le souhaite, puisque moi, mon but, c'est que tout se passe bien et qu'on puisse avoir aussi un travail constructif avec les élus d'opposition. Hein, parce que le but, c'est que tout le monde puisse participer au débat et, encore une fois, pouvoir s'exprimer. Mais bon, on le saura dès ce soir, puisqu'en réalité, mon conseil d'installation a lieu ce soir dans une bonne demi-heure, et donc ce sera le premier conseil, donc on verra si ensuite l'apaisement revient, et c'est évidemment mon but.
On vous souhaite bonne chance et on est de tout cœur avec vous.
Voilà. Dernière question, Romain Lemoigne. On en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter? Comment est-ce que vous tenez votre vocation politique? Et pourquoi? Dites-nous un petit peu ce qui vous a. Quel a été le moteur pour vous dans vous lancer dans cette aventure?
Alors, en réalité, je m'étais présenté aux législatives il y a un an et demi, dans la même circonscription, et dont la flèche était la ville-centre. Et en fait, dans cette élection-là, on est arrivé en tête au premier tour, de manière assez nette d'ailleurs. Et moi, j'ai interprété ce score-là comme un appel au changement et comme un appel à une liste municipale. Et d'ailleurs, beaucoup de fléchois sur les marchés, sur les rencontres qu'on a pu faire, on va demander à ce qu'il y ait une alternance, puisque, encore une fois, après plus de 35 ans de socialisme et tout ce que ça implique, en termes d'insécurité, de surenchère fiscale et autres, il fallait du renouveau. Et moi, voilà, je suis jeune, certes, mais je crois dynamique et en tout cas motivé.
Bah, vous l'avez montré, en tout cas.
Ouais. Oui, ouais. Voilà. Donc, en tout cas, on a réussi cette première victoire. Maintenant, le plus dur reste à faire, à savoir réussir. Mais moi, j'ai aucun doute, on a une très bonne équipe. On est soutenu par la plus grande partie des Fléchois et donc il n'y a plus qu'à.
Quelles seront vos premières mesures, peut-être, et les thèmes principaux qui ont porté votre campagne?
Alors d'abord, la question de la sécurité, ça peut paraître un peu convenu, mais en réalité, c'est le premier impératif, même à la Flèche, même si c'est une ville relativement rurale, mais il n'y a que 4 policiers municipaux à la Flèche, par ailleurs non armés, puisque la gauche a refusé de les armer. Et on voit que depuis quelques années, l'insécurité augmente. Hein, c'est d'ailleurs la principale préoccupation des habitants quand on a fait des rencontres et des apéros de quartier. Et donc c'est lié aussi à cela, c'est évidemment la question de l'éclairage. En fait, figurez-vous que l'éclairage public, à partir de 21h, dans la plupart des quartiers, est éteint. Donc de 21h à 6h, il n'y a absolument pas d'éclairage dans 90% de la ville. Ce qui est évidemment ahurissant. Et donc, nous, on va le rétablir pour que chacun puisse se déplacer sereinement, aller et venir.
Et ça, c'est une proposition qui a emporté l'adhésion. Hein.
Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, il y avait donc à la fois la question de l'éclairage et aussi de la distance, en fait. Parce que la mer sortante était vue comme assez distante avec ses administrés. Donc justement, on sera une mairie à l'écoute proche, on ira sur le terrain, on fera des permanences régulières pour regarder le contact avec la réalité des gens.
Allez, dernière question de notre breton, Baptiste Mousseau.
Alors, c'était pas une petite question, mais c'était plutôt une petite remarque. Mais c'est vrai que dans plusieurs villes gérées par la gauche, l'éclairage public est éteint relativement tôt. Par exemple, moi, dans ma commune, c'est vrai que l'éclairage public s'éteint et éteint à 21h et éteint notamment
commune bretonne.
Voilà, était éteint notamment également dans la commune de Saint-Brieuc, une grande commune pourtant, mais éteint.
Bah, voilà, suppression des écolos, j'imagine.
Voilà, c'est ça.
Ce qui est d'autant plus absurde qu'il existe aujourd'hui des mécanismes d'éclairage dits intelligents qui font que l'éclairage peut être éteint et s'allumer si quelqu'un passe, s'il y a quelqu'un qui voilà dans le schéma autour. Voilà. Donc c'est idiot comme mesure, mais ça peut facilement être résolu.
Donc Romain Lemoigne,
c'est un investissement, mais c'est très vite rentabilisé. Donc c'est une question de choix politique, mais donc on en revient à la question des écologistes versus les partisans du bon sens.
Absolument, dont on parlait tout à l'heure. Merci Romain Lemoigne de nous avoir consacré ces quelques minutes de votre temps précieux. Et bravo encore pour votre succès et bonne chance pour votre mandat. Vous partez pour 6 ans, 7 ans. 7 ans.
Si vous souhaitez, on verra bien.
Voilà.
Merci infiniment et puis au plaisir d'échanger de nouveau avec vous.
Vous revenez vous aussi quand vous voulez. Au revoir Romain Lemoigne. Merci beaucoup.
Au revoir, à bientôt.
Voilà, on va se tourner vers notre ami Gérard Gachet, qui connaît bien un autre théâtre de ces municipales, qui est la commune de Paris, parce qu'on reste dans l'analyse de ces municipales, et donc Gérard Gachet, tout de suite.